Judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussan. Bonjour à tous. Eh bien, nous nous retrouvons pour cette troisième émission avec Christian et Swan, que je remercie. Et nous allons parler de l'importance des émotions. Nos pensées, nos désirs, nos croyances, nos actions sont toutes teintées d'émotions, dites-vous. Et je poursuis la lecture. Les émotions sont omniprésentes dans les relations interpersonnelles. Leur contenu et leurs variations sont en lien étroit avec la personnalité, les expériences vécues, les connaissances et la culture. Il y a différentes conceptions sur le sujet, celle de Descartes et puis celle de Damasio. Je vais demander peut-être à Christian de nous parler de ça.
Oui, en quelques mots. La vision de Descartes, c'est la vision cartésienne où le corps et l'esprit sont bien séparés. Il y a une dichotomie forte entre les deux.
Oui.
Damasio, lui... Bon, évidemment, Damasio, il a aussi bénéficié des connaissances modernes, puisque c'est un neurologue américain qui a replacé au centre de nos capacités à agir de manière rationnelle les émotions. Et ces émotions, pour lui, guident en fait nos décisions, notamment les décisions qui doivent être prises rapidement. Généralement, quand on est dans un certain cadre, dans un certain contexte d'interaction avec les autres, on ressent des émotions. Ces émotions-là sont traduites sous forme d'états physiologiques, d'états physiologiques qui sont considérés comme des marqueurs, en fait. Et ces marqueurs sont mémorisés. Quand on se retrouve face à une situation similaire, un peu plus tard, eh bien, ces marqueurs-là nous font... comprendre à la fois ce que nous ressentons et les intentions et les émotions des autres. Et c'est la condition qui fait qu'on va avoir un rapport plus juste avec les autres, prendre la bonne décision très rapidement. Donc c'est une sorte d'intelligence sociale grâce à l'intelligence émotionnelle. C'est plus simplement la capacité simplement à analyser des éléments de façon un peu, purement rationnelle, encore une fois, purement logique. Les émotions nous permettent de prendre les bonnes décisions, notamment dans un contexte d'interaction humaine. Donc ça, c'est la vision de Damasio. Il faut savoir qu'il a basé sa théorie sur le fait que certains de ses patients qui avaient des problèmes neurologiques, notamment où les relations entre les aires préfrontales et les aires du système limbique, qui sont le siège des émotions, alors que le cortex frontal contrôle un peu ces émotions-là, chez ces patients-là, l'altération des voix crée une absence, une incapacité à décider. C'est-à-dire que la déconnexion des émotions avec les centres du raisonnement les empêchait de décider. Ils ne savaient pas décider. Et ils n'apprenaient même pas, puisque en fait, face aux mêmes situations, ils étaient dans le même état d'indécision et incapables de se décider pour les choses très simples, comme prendre un rendez-vous chez un médecin ou toute autre décision qui nous paraissent banales. Donc pour lui, les émotions sont quelque chose d'essentiel dans la prise de décision et dans l'intelligence sociale.
Je crois que j'avais même lu un article, je ne me souviens plus très bien où on faisait l'expérience suivante, on inhibait les émotions, effectivement, on constatait que la personne n'arrivait plus à rien, parce qu'elle n'avait plus d'émotions.
Oui, en fait, on oublie parfois qu'on est avant tout des êtres émotionnels. Oui. Et d'ailleurs, on dit que les émotions ont trois rôles majeurs, mais tu vas voir qu'ils vont recouper ce que papa vient de dire. Le rôle numéro un, c'est une fonction adaptative, s'adapter à l'environnement. Oui. Un environnement hostile va générer des émotions négatives qui ont pour objectif de nous faire fuir la situation. Un environnement plutôt favorable va générer des émotions dites positives, l'envie, la joie, qui vont plutôt nous amener vers ou à profiter de la situation. Donc les émotions sont avant tout des guides de vie. Si tu n'as pas peur quand tu es face à un lion, par exemple, t'as un problème. Mais tu vois, de la même manière, si tu ne ressens pas de la joie lorsque tu es face à des êtres proches ou des êtres aimés, tu as une autre forme de problème. Donc les émotions ont en un une fonction adaptative, en deux une fonction sociale. Elles nous permettent effectivement d'interagir les uns avec les autres, notamment à travers l'observation des micro-expressions faciales qui sont le reflet de nos émotions, le sourire exprimant la joie, les yeux et la bouche ouverte exprimant plutôt la peur. Bref, ça nous permet de lire sur le visage les uns des autres et de faire ce que l'on appelle de la contagion émotionnelle, qui nous amène en tant que groupe à être préparé à un danger, ou même dans les relations du quotidien, à savoir si on peut se rapprocher, collaborer ou s'éloigner les uns des autres. Et trois, bah, c'est une fonction plutôt motivationnelle, puisque, et papa l'a dit, l'envie et la peur sont deux drivers majeurs de nos décisions. Or, ce sont deux émotions universelles. Donc en fait, les émotions sont omniprésentes dans notre vie du quotidien et on ne peut pas les écarter. Une erreur fréquente que les gens font, c'est de penser que la gestion des émotions, c'est de devenir un robot.
Alors que c'est s'affranchir de
ce... Ouais, alors que c'est potentiellement la pire erreur que l'on puisse faire. Non, gérer ses émotions, c'est apprendre à les comprendre et ensuite, potentiellement d'ailleurs, à les remettre en question et à les adapter en fonction des différentes situations.
Alors, je regarde toujours l'heure quand elle fait des signes. Alors, l'équilibre subtil qui résulte entre les interactions entre neurotransmetteurs et neurohormones, c'est la clé de nos états physiologiques. Alors, il y a toute une chimie, je crois qu'on en parlait il y a quelques minutes. Et puis alors, il y a tout un tas de noms, la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline, et puis le cortisol.
Tu veux, pour les auditeurs, tu veux que je donne un petit tip pour les retenir?
Oui.
Alors, faut qu'on se dise que chaque jour, on doit prendre notre dose de bonheur. Mmh. Dose, D-O-S-E, dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine.
Voilà,
donc tu as les quatre émotions, on va dire, du bonheur, qui sont résumées dans l'acronyme DOSE, D-O-S-E.
Ah oui, très bien ça.
Une dose de bonheur par jour, pas mal, non?
Il faut qu'on tienne compte de ça.
Oui, il faut se souvenir que en fait, nos états émotionnels reposent sur des activités dans le cerveau, toujours. Hein. Il faut toujours penser à ça. Or, l'information dans le cerveau, elle se traduit par la libération de neurotransmetteurs,
voilà,
qui vont activer ou désactiver, donc activer ou inhiber des circuits spécifiques, mais aussi des neurohormones qui circulent dans le sang et qui vont agir un peu partout et très rapidement. Donc la dopamine, c'est plutôt pour la motivation, c'est ce qui vraiment donne la motivation. La sérotonine, c'est plutôt le bien-être. Le cytocine, c'est le lien social, c'est le lien affectif. Il y en a d'autres comme l'anandamide qui provoque carrément des états de béatitude, des états d'extase, etc. La noradrénaline, c'est plutôt l'excitation et le stress, mais le bon stress, sauf si la libération est excessive. Le cortisol, c'est la même chose. C'est une bonne gestion du stress, mais si les quantités sont libérées de façon importante, ça devient du stress négatif qui inhibe la personne et qui crée plutôt de la sidération et de l'anxiété. Voilà. Et donc c'est tout un cocktail chimie en fait. Et tout ça, c'est du fin dosage extrêmement, extrêmement subtil qui donne une coloration à nos émotions. Parce que nos émotions ne sont jamais A, B, C, D, E. C'est toujours un petit dosage de toutes ces émotions-là qui fait que... Ben, et ça fluctue au fil du temps.
Et quand même, on définit qu'une journée a été bonne, notamment en fonction des émotions que l'on a ressenties. Si sur l'ensemble de ta journée, tu as ressenti une dominance d'émotions négatives, bah, tu as forcément le sentiment d'avoir passé une mauvaise journée. Tu as ressenti une dominante d'émotions positives, même si tu as eu des obstacles dans la journée, et tu as potentiellement plutôt l'impression d'avoir passé une bonne journée. Donc cette danse ou cette chimie des émotions tout au long de la journée, que l'on peut soit subir, soit au contraire,
provoquer
avec des actions concrètes qui vont libérer de la dopamine, qui vont, tu vois, par exemple, se fixer des objectifs le matin, des objectifs réalistes et réalisables, déclenche de la dopamine. Donc quelqu'un qui a une bonne gestion des priorités et qui sait ce qu'il veut accomplir dans la journée va déjà potentiellement déclencher de la dopamine. Bref, prendre quelqu'un dans ses bras va déclencher potentiellement de l'ocytocine. Bref, tu vois, un ensemble de choses que l'on peut faire. S'amuser, rire ou faire du sport, déclencher des endorphines. Voilà. Donc, on revient toujours aux mêmes notions, mais on est responsable, ou en tout cas, on a du pouvoir, beaucoup plus que ce qu'on croit, sur notre développement, sur notre bien-être, sur notre bonheur, sur qui on est, qui on devient.
Oui, et justement, à ce sujet, je vais citer une phrase de Nietzsche qui vient à point, là. Alors, je la cite. « Tu dois devenir l'homme que tu es, fais ce que toi seul peux faire, deviens sans cesse celui que tu es, sois le maître et le sculpteur de toi-même. » Qui veut commenter ?
Ouais, ben en tout cas, ça c'est du développement personnel pur.
Oui.
Tu vois, c'est deviens l'architecte de ta vie et surtout réalise-toi à ton plein potentiel. Quel dommage de savoir que l'on a tous un potentiel incroyable et jouer à 10% de son potentiel. C'est aussi de la performance, c'est aussi du leadership personnel, c'est aussi du développement personnel. C'est juste deviens au quotidien la meilleure version possible de toi. Ça ne veut pas dire devenir quelqu'un de parfait, attention. Hein. Mmh. Ça veut dire mettre un pied l'un devant l'autre et être dans une dynamique constante de progrès et d'évolution positive.
Très bien. Alors, tout à l'heure, on en a un petit peu parlé. La clarté. La clarté, c'est une nécessité.
Oui.
Gagner de la clarté, c'est pouvoir passer d'une vision à court terme à une vision à long terme. Expliquez-moi. Enfin, un petit commentaire.
Ouais, ben, quand on manque de clarté, imaginons on est sur la route en voiture et il y a du brouillard. Ben effectivement, quand on manque de clarté, on a tendance à regarder juste le devant de la voiture. On a une vision très court-termiste et on a tendance à s'inquiéter. On a du mal à prévoir, on a du mal à imaginer, on a du mal à rêver, on a du mal à se projeter. Donc, gagner en clarté, ben, c'est passer d'une vision sous brouillard à une vision lumineuse dont on sait à quel point elle est plus agréable. Pour moi, pour rester succinct sur ça, mais les trois piliers de la clarté, c'est un, d'avoir des rêves. Mmh. Suffisamment grand et suffisamment ambitieux parce que ça nourrit, parce que ça donne, tu vois, ça suscite des émotions positives et ça nourrit l'imaginaire et la créativité. Mmh. C'est également d'avoir ce que l'on va appeler un pourquoi, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Tu vois, c'est un peu comme si tu te retrouves dos à ton passé et tout ce qui t'est arrivé dans le passé définit un peu soit ce que tu ne veux plus, soit ce que tu veux continuer à obtenir, et en trois, une mission. Ce qui peut être une mission de vie, et on en parlera peut-être plus tard, mais ce que l'on appelle notamment l'ikigai. Et quand tu as ces trois éléments, c'est-à-dire une certaine ambition et des rêves à réaliser, que tu t'autorises à rêver grand, ben en fait, les rêves vont t'attirer, ton pourquoi va te pousser, et ta mission va te donner tout le carburant dont tu as besoin en chemin pour pouvoir justement aller au-delà des hauts et des bas et rester sur un chemin continu de progrès.
Alors donc, tu viens de parler d'une certaine philosophie, puis on va en parler là tout de suite. Qui va en parler ? L'ikigai ?
Oui, je viens parler de l'ikigai, qui est une philosophie héritée de la tradition japonaise. Dans la culture japonaise, l'ikigai, c'est quelque chose qui permet de trouver le bonheur au quotidien. C'est au fond ce que chacun recherche.
Oui.
Mais à travers quelque chose qui est relativement mesuré, donc qui est intégré dans un contexte de philosophique, de philosophie de vie, on va dire, qui est relativement simple finalement. C'est déjà avancer à petits pas, c'est-à-dire concevoir le progrès comme une succession de petites étapes, plutôt que de se dire, voilà, je dois aller là-bas et c'est très loin et ça va me coûter beaucoup, parce que déjà là, on est démotivé. Et on ne va pas fournir les efforts nécessaires pour arriver. Donc, avance un petit pas. Ensuite, il y a la notion d'entrer dans le flow, c'est-à-dire être absorbé finalement dans une activité qui correspond à la fois à un niveau de défi, entre guillemets, relativement élevé, et une adéquation avec notre niveau d'expertise. Mais ça peut être entrer dans le flow, ça peut être jardiner, par exemple.
Oui.
Ou effectuer une tâche, je ne sais pas, l'ébéniste par exemple, qui va travailler son meuble, etc. Il est à la fois dans un degré, il met en œuvre son expertise, et il y a un certain défi, il y a une réalisation à effectuer. Il est dans un état de flow où son niveau de conscience est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il est dans une forme d'automatisation des gestes, et sa pensée est libérée.
Est-ce qu'il y a un détachement ?
Il y a un détachement. Et c'est ce qui permet de se libérer des préoccupations, de la rumination par exemple.
Mmh, ouais. Mmh.
Donc voilà, tu es comme dans un état second en fait.
D'accord.
Ça c'est l'état de flow. Après tu as l'harmonie et la durabilité. Dans la société japonaise, l'harmonie c'est essentiel, puisque le bonheur de l'individu dépend de l'harmonie sociale. C'est quelque chose qui chez nous a été un petit peu perdu.
C'est dommage.
On est dans une société beaucoup plus individualiste.
Oui.
Mais voilà, quand on est en plus dans une société où il y a de l'interdépendance, son bonheur personnel dépend de l'harmonie que l'on peut établir avec les autres, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. On a aussi cette capacité à se réjouir des toutes petites choses. Le bonheur, il tient parfois à des toutes petites choses, un repas entre amis, ça peut être faire une bonne balade et puis éprouver le plaisir d'être dans la nature. Des petites choses comme ça qui se cumulent et qui donne le sentiment d'être bien, d'éprouver du bonheur. Donc ça, c'est une autre partie, un autre pilier d'Ikigai. Et aussi être dans l'instant, être ici et maintenant. C'est-à-dire ne pas vivre dans le passé, peut-être ne pas trop se projeter dans l'avenir, mais être ici et vivre l'instant présent intensément.
Bon, c'est une belle philosophie.
Oui, c'est une belle philosophie, mais finalement, quand tu regardes, qui ne demande pas un travail extraordinaire. Au fond, c'est quelque chose de simple. Ça demande, c'est une forme de discipline et ça demande de positionner son regard. De voir de prendre une certaine distance,
oui.
D'avoir une démarche de conscientisation aussi, voire d'autocritique, et puis d'ajuster les choses et de se dire, ben, le bonheur, il est là, il est dans ma main, il est à ma portée.
Oui. Et Roland, il faut savoir que ce schéma, il a été par la suite réajusté ou réadapté par, oui. Voilà, par Zuzu Naga, qui en a fait aussi un outil du progrès, que lui définit l'ikigai comme étant un peu un chemin de vie que tu peux emprunter, et notamment dans des sociétés modernes comme les nôtres, emprunt quand même d'ambition, emprunt d'un chemin notamment professionnel que l'on veut entreprendre. Et donc il a modernisé ce schéma, il en a fait un schéma basé sur quatre grands piliers, qui est ce à quoi je suis bon. Donc, quelles sont mes compétences, ce que j'aime faire, parce que parfois tu peux aimer faire quelque chose et pas forcément être super compétent, ce dont le monde a besoin et ce pour lequel je peux être payé. Et finalement, en mettant des mots-clés ou en recroisant ces quatre axes, ça permet de définir ce que pourrait être un chemin de vie professionnel, par exemple, puisqu'il semblerait que lorsque tu t'inscris dans une vie où ton engagement professionnel correspond aussi à ton engagement personnel, quand ta mission de vie professionnelle et ta mission de vie personnelle sont finalement très alignées, eh bien, tu as ce sentiment de ne plus travailler, parce que quand tu vas travailler, tu fais ce que tu aimes faire. C'est plus un travail. Voilà. Et ce qui, d'ailleurs, serait, selon certaines études, notamment menées par le National Geographic, un des éléments clés du bien vieillir.
Tu veux me répéter ces quatre piliers? C'est tellement
oui.
important.
Oui, alors, ce que j'aime faire, ce à quoi je suis bon, ce pour lequel je peux être payé et ce dont le monde a besoin.
Alors, ce troisième point, ce pourquoi je peux être payé,
ouais.
C'est une évaluation des autres par rapport à soi?
Alors, c'est une bonne question. C'est plutôt une évaluation des besoins aujourd'hui ou de comment je peux transposer cela dans un environnement professionnel.
La dynamique du changement impliquant le passage d'un état à un autre requiert du temps et de l'énergie. Vivre, c'est changer, et changer, c'est vivre. Alors, il s'agit d'un... Oui, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Dites-moi ce que vous pensez de ça. Vivre, c'est changer. On a l'impression ouais. d'avoir répété plusieurs fois.
Oui, c'est vrai. On l'a dit, c'est-à-dire oui, qu'en oui. fait, vivre, c'est évoluer toujours dans une dynamique de changement. Alors, il faut espérer que ce changement soit du progrès. Mais on ne peut pas rester sur le bord de la route alors que tout change autour de nous. On parle d'adaptation.
Oui. On parle aussi de trois grands types de changements. Quels sont ces trois types de changements?
Alors, il y en a notamment deux majeurs, hein, mais c'est le changement subi et le changement souhaité. Si on doit les catégoriser un petit peu comme ça.
Oui.
C'est que dans la vie, on l'a dit, le changement est quasi inévitable. Ensuite, c'est est-ce que ce changement, je le souhaite ou je le souhaite pas? Par exemple, si je me fais virer de mon entreprise, alors que je ne le souhaitais pas, c'est un changement subi. Si je souhaite déménager, c'est un changement souhaité. Dans les deux cas, le changement est toujours empreint de difficultés, potentiellement de stress, etc. Mais malgré tout, un changement que tu subis va générer beaucoup plus d'opposition. Et d'ailleurs, il y a une personne qui s'appelle Kubler-Ross qui a travaillé sur le sujet, qui est là. Comment les gens se positionnent face à un changement subi, avec plusieurs étapes. D'abord, une étape un peu d'opposition vive, où on génère beaucoup d'énergie, une espèce de refus, tu vois. Une deuxième étape, qui est plutôt une étape d'abattement, où finalement, on est dans le renoncement et l'abandon, où on subit. Une troisième étape, qui est plutôt une étape qu'on va dire une étape un peu d'acceptation. Et une troisième étape, qui est une étape où je me réengage. Finalement, et où je me remets dans la courbe de allez, maintenant j'y vais et j'avance d'une certaine manière. Donc, face à un changement volontaire, tu vas déployer l'énergie, tu le souhaites. Et nous, on veut que le développement personnel soit une démarche de développement volontaire, souhaité, choisi, parce que forcément, ça engage aussi des émotions positives, ça engage aussi, ça facilite la discipline, ça va générer plus de motivation, comme on l'a expliqué sur les précédents points.
Alors, tu as parlé de ces quatre étapes, phase d'opposition, phase d'abattement, phase de résignation, et puis
passage à l'action.
Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une phase à une autre?
Oui, alors déjà, elle-même, Kubler-Ross, lorsqu'elle a étudié ces différentes phases, elle s'est rendue compte que l'on pouvait passer d'une phase à une autre, ou que le temps de passage sur les différentes phases pouvait être différent. Oui. Certaines personnes vont très vite lâcher prise et passer... de l'abattement à la résignation, ou plutôt de l'opposition à l'abattement. Donc, on n'est pas égaux. On traverse tous les mêmes quatre phases, mais on n'est pas égaux sur la dimension, ou la hauteur, l'intensité ou le temps passé sur ces différentes phases. Maintenant, la meilleure manière de passer à travers ces différentes phases le plus rapidement possible, c'est de savoir lâcher prise, c'est le contrôle des émotions, c'est la prise de conscience, c'est de gagner en clarté, c'est de savoir là où je peux agir et là où je ne peux pas agir, et on revient en fait sur un ensemble d'éléments qu'on a déjà évoqués du développement personnel. Et justement, l'idée étant de transformer le changement subi en changement volontaire, en arrêtant de se dire ou en arrêtant de s'opposer à un changement qui va de toute façon se produire. Je reviens sur l'exemple de quelqu'un qui se fait virer de son entreprise. Plutôt que de ruminer et de passer des heures à se dire « Pourquoi je ne mérite pas ça ?» et à se victimiser, c'est plutôt de prendre ses responsabilités et se dire « Ok, je ne peux rien faire pour ça. » Par contre, qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour aller vers autre chose? Ça peut être, je reprends mon CV, je fais savoir à mon réseau que je suis disponible pour bosser, je réévalue mes compétences, je redéfinis mon ikigai, je clarifie aussi peut-être ma roue de l'équilibre, on n'a pas trop eu l'occasion là d'en parler, on en parlera peut-être sur une autre émission. Bref, et à partir de là, je passe d'un changement subi à un changement volontaire, je reprends le contrôle de mon destin, je redeviens l'architecte de ma vie, et on retombe sur nos pas, sur le développement personnel.
Cheminement magnifique. Très, très, très bien. Bon, eh bien, on arrive encore à la fin de l'émission. Merci à vous deux.
Merci à toi.
Merci. Et puis, nous allons nous retrouver pour une dernière.
Avec grand plaisir.
Alors, à bientôt, chers amis. C'était Judaïsme Pluriel. Alors, à la semaine prochaine. Au revoir.